dans les studios. Bonjour Dominique.
Bonjour William, bonjour JB, amis du bout des ondes, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un voyage un petit peu, on va monter, on va dans le nord, on va aller en Russie. On va voir le film Léviathan, un film de Andrei Zviagintsev.
Tu vois que même en caractère cyrillique, ça marche bien.
Oui, ça marche bien, enfin, on peut dire ça. Alors, on va en Russie, on va au nord, on va sur la mer de Barents. Alors, pour situer, c'est un peu à l'est de la Finlande, c'est dans l'oblast plutôt de Murmansk. Alors ça, c'est l'équivalent d'une région, une petite région. Donc c'est à l'est de la Finlande, à l'altitude alors de la ville de Rovaniemi en Finlande, par exemple la ville du Père Noël. Hein, on peut en parler, c'est bientôt quand même. Et puis pour ceux qui peuvent connaître, en Norvège par exemple, on est pareil, à peu près à la latitude de Tromsø, donc à peu près au niveau du cercle polaire arctique et du Cap Nord.
Oui, d'ailleurs, il a amené...
cette situation géographique a une, forcément une influence sur la durée du jour et de la nuit, donc la luminosité des séquences. Alors, on va parler un petit peu de ce film. On va retrouver Kolia. Kolia, c'est un monsieur qui est garagiste dans une petite ville près de la mer, où il vit avec sa jeune épouse Lilia et son fils Roma, qu'il a eu d'un précédent mariage. Et il y a dans cette ville, évidemment, il y a un maire. Le maire de la ville, c'est Vadim Chelevia. C'est un personnage pour le moins impressionnant. Et il est décidé de s'approprier le terrain de Kolia, son garage, sa maison, l'ensemble. Le site est dégagé, dominant, et lui, il a des projets assez personnels. Alors, il tente d'abord de l'acheter, à un prix évidemment dérisoire. Mais Kolia ne peut pas supporter de perdre tout ce qu'il possède, son terrain et la beauté qui va avec. Et depuis sa naissance, c'est son lieu. Alors le maire devient plus agressif et autoritaire. Le système mafieux se met en place. On va se mettre dans l'ambiance du film en écoutant tout de suite la bande-annonce.
Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило.
У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет!
Ну понятно же, что сука для себя местечко освобождает.
Всякая власть от Бога. Пока Богу угодно, беспокоится тебе.
А вот угодно ему...
Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена.
Натя, полистайте.
Ну, а если я не буду читать вот это, тогда что?
Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
Люблю тебя.
Я знаю.
И не отстрелялись, у меня мишени поинтереснее.
А из нынешних кого нет?
Мало исторического зазора.
Твой Бог милосердный.
На земле нет подобного ему.
Voilà, donc extrait de ce film russe Léviathan. Léviathan dans la mythologie phénicienne, c'était un monstre du chaos. Ouais. Il est souvent représenté comme un monstre marin. Alors, je ne sais pas le rapport, on verra peut-être dans notre propos à l'issue.
Il y en a bien sûr.
Il décrit peut-être une situation qui est l'état d'un pays, d'une relation, je ne sais pas, on verra plus précisément.
C'est bien sûr, William, vous le dites, c'est le monstre du chaos primitif. Hein. C'est un monstre qui représente le cataclysme immense susceptible d'anéantir un monde qui a perdu ses valeurs. Et là, on peut associer l'État à ce monstre, hein, ça c'est bien clair. Et puis, c'est également un monstre marin évoqué par la Bible, notamment. C'est un genre serpent de mer dont les ondulations seraient à l'origine des vagues. Voilà.
Alors, en écoutant les propos au début préliminaires, je me posais la question si on se rapprochait plus ou moins... de ce contrat social de Rousseau, puisque là on parle d'appartenance, de terrain à qui on devrait faire prévaloir des droits. Alors, je ne sais pas si dans la conclusion on a réfléchi à cette notion de partage, mais enfin.
Alors toutes ces questions et ces interrogations, je crois qu'on pourrait les poser à notre invité là qui est près de nous, puisque on reçoit Sylvie Brébant, qui est rédactrice en chef à TV5 Monde.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sylvie, merci d'être venue. Léviathan, ce film de Andrei Zviagintsev.
Zviagintsev.
C'est bien dit. c'est pas un nouveau metteur en scène, il a déjà un peu d'expérience.
Oui, il en a pas non plus énormément. Hein. Il a commencé seulement il y a une quinzaine d'années à faire des films. Donc c'est plutôt un jeune dans le paysage cinématographique russe, on va dire. Hein.
Et les quelques expériences de sa jeunesse sont quand même marquantes. Hein.
Oui, c'est-à-dire que dès le premier film qu'il a fait, enfin c'est pas le tout premier, mais le premier qu'il a fait connaître, c'est Vasvrachenie, ça veut dire le retour. Et tout de suite, ce film a marqué absolument tout le monde. Il a reçu des prix partout dans le monde. Et sa particularité, moi je dirais, c'est de mêler toujours le privé, le familial et le social. Et au-delà, dans ce film-là, Léviathan, le politique, c'est d'ailleurs la troisième interprétation pour Léviathan, c'est Hobbes, hein, et c'est ce que lui dit dans ses interviews, c'est-à-dire qu'il se réfère au Léviathan de Hobbes, voilà.
D'accord. Dans ce film, on voit les hommes boire, même un peu les femmes, et la lucidité est atteinte parce que ça amène forcément à des dérives. Est-ce que ça représente quelque chose de réaliste sur la société russe ?
Alors, bon, c'est un film, hein, et c'est une partie de la réalité. D'ailleurs, je recommande, parce qu'il est toujours en ligne ce reportage, d'aller voir, excusez-moi, je vais citer des confrères, un Télérama a envoyé un reporter dans la ville, tout au nord, là, au nord même de Mourmansk. Et ce reportage est formidable parce qu'il montre une toute autre réalité de cette ville, en fait, hein, qui, au contraire, est plutôt paisible. D'ailleurs, le maire, c'est extraordinaire, le maire de cette ville s'appelle Mikhail Gorbatchev.
Faut le faire.
Et bon, lui n'est pas du tout corrompu.
C'est pas dur pour lui de porter cette mine parce que.
Je crois qu'il en rigole. Il y a beaucoup d'humour en Russie. Hein. C'est aussi un échappatoire. Et le Léviathan comme monstre étatique, c'est pas une nouveauté. Hein. C'est pas une nouveauté seulement en Russie. C'est partout qu'on doit. Cette histoire, en fait, elle pourrait se passer ailleurs. D'ailleurs,
mais je crois qu'elle part d'un fait divers réel qui se passe aux États-Unis.
Ce qui est assez étonnant en vous écoutant, Sylvie Rebon, c'est que je me rappelle d'un film qui avait fait l'apologie de ce qu'était à l'époque l'administration soviétique, qui était la Maison Bleue, où quelqu'un doit monter un papier dans les étages et il n'arrive jamais à arriver à son destinataire et au bout du bout, la maison s'écroule. Et bon, c'est ce qui résumait un peu ce qu'était l'administration soviétique de l'époque.
Oui, mais
on a le sentiment qu'il y a toujours eu chez les...
Ah oui, oui, en Russie, c'est aussi lié à l'immensité du pays. C'est-à-dire que c'est le plus grand pays du monde, hein, quand même. C'est un pays continent. Donc, évidemment, que la bureaucratie, elle s'est installée loin du pouvoir central. En plus, elle a créé ses propres pouvoirs particuliers. Et je pense que c'est un des aspects importants du film. C'est aussi pour ça, il faut le dire, le film a été sélectionné par la Russie, c'est-à-dire par un comité national russe, donc en ligne directe, on va dire, avec les gens qu'il faut pour représenter la Russie aux Oscars. Donc c'est dire quand même, voilà, les contradictions, la dialectique qui se passe dans ce pays.
D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a passé plusieurs commissions pour pouvoir tourner ce film, et en plus, il a obtenu des avances recettes.
Ah, le film est financé pour un gros tiers par l'État russe, mais aujourd'hui, là, le cinéma russe est un des plus florissants du monde. Il a retrouvé sa capacité de production des années soviétiques, hein, avant la perestroïka, et c'est parce qu'il est financé par l'État, en fait. Hein, c'est un financement d'État, et c'est assez... Il y a beaucoup de films extrêmement critiques qui sortent. Nous, on ne les voit pas, mais il y a des films critiques d'une façon drôle, souvent. Hein, c'est-à-dire, c'est plutôt des farces et des choses comme ça.
Et d'ailleurs, il semblerait que le peuple russe, est, par tradition, brancarde un peu ses hommes politiques d'une façon systématique. Et le metteur en scène disait qu'en fait, ce n'était pas tellement ces côtés-là qu'il craignait dans son film, c'était plutôt qu'on le traite d'anticlérical.
Oui, et puis il y a aussi une autre chose qu'il craignait au moment où il a tourné le film, parce que la loi a été votée au printemps dernier. En fait, il y a une loi qui est passée sur les gros mots. On n'a plus le droit de prononcer des gros mots dans les œuvres culturelles, c'est-à-dire télévision, cinéma, théâtre, etc. Et donc là, en fait, le film n'est pas encore sorti en Russie. Alors, on dit que tout ce qui compte, tout le monde l'a vu, en fait, tous ceux, parce que c'est en plus le pays, le plus grand pays du téléchargement illégal. On organise des projections privées, enfin bon, etc. Donc, tout le monde, à Moscou, par exemple, beaucoup de gens l'ont vu déjà. Mais donc, il y a cette loi sur les gros mots, et il y a énormément de gros mots, ce qu'on appelle le mat en russe. Et donc, on se demande si le fait qu'il soit repoussé à janvier ou février, c'est à cause de ça. Mais ça peut être aussi lié aux Oscars, puisque c'est le moment
mais
où...
Mais quel intérêt à Vladimir Poutine à avoir ce type de film qui est une...
Ah mais le film, l'un des films préférés de Vladimir Poutine s'appelle La 9e Compagnie ou Le 9e Bataillon. C'est un film qui a une dizaine d'années déjà, qui est un film extrêmement antimilitariste sur la guerre d'Afghanistan, qui aurait mis des années en France à se faire sur la guerre d'Algérie, par exemple. Il a été fait, c'est pareil pour la Tchétchénie, hein, il y a beaucoup plus de films sur la guerre en Tchétchénie.
Quand on voit le film La Question qui a été interdit en France.
Voilà, exactement. Donc là, ce film, La 9e Compagnie, c'est un des films préférés de Poutine. Donc il faut voir aussi qu'il y a des contradictions dans ce pays. C'est pas. Évidemment, nous, en plus, là, on est dans cette crise avec l'Ukraine, donc les rapports se sont encore tendus. Mmh. Mais moi, je trouve aussi qu'en France, on n'essaye pas forcément de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà. Donc, mais bon, donc le film, à cause de cette loi sur les gros mots, les jurons, est en suspens, mais c'est peut-être pas forcément à cause de ça. Et alors, en plus, à la Mostra de Venise, il y a le film de Konchalovsky qui a été primé, qui a reçu le Lion d'argent. Et ça, c'est un film vraiment produit par l'État russe. Konchalovsky, c'est la famille de Mikhalkov aussi, donc c'est vraiment le cinéma. D'ailleurs, c'est du très beau cinéma aussi, hein, c'est pas... Mais bon, et là, il y a plein de gros mots aussi, et donc ce film, donc ils vont pas pouvoir autoriser l'un et interdire l'autre, ça c'est pas possible, quoi, voilà.
D'accord. Il y a des acteurs assez remarquables dans ce film. Vous pouvez en parler un petit peu, Sylvie, de ces acteurs.
Alors oui, je vais.
On les connaît pas.
Non, ils sont pas connus en France, donc peut-être les noms, c'est pas forcément important de les dire. Mais il faut savoir que tous ces acteurs sont extrêmement connus en Russie, qu'ils ont déjà eu des carrières. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait comme film et comme théâtre, c'est très souvent.
Et l'un et l'autre.
En fait, parce que lorsqu'on étudie la comédie ou le cinéma, on le fait tous, tout le monde le fait au même endroit en Russie. Hein. Donc c'est pour ça que finalement, ils passent tous. Zvaginsev a été acteur avant d'être cinéaste aussi. Et le plus connu de tous les acteurs, en fait, c'est celui qui joue le maire, le petit potentat. Voilà. Et donc lui, alors il a tourné, je crois, dans plus de 150 films déjà. Donc bon, il est dans des séries télévisées. Hein, moi etc. Et il a déjà joué aussi, notamment dans un film qui s'appelle Balbo et qui était une sorte de comédie assez bruyante, énervée, qui a énormément plu en Russie sur la corruption. Il jouait déjà un type corrompu. Il a le physique pour s'il y a un physique de corrompu. C'est un peu bête tout ça. Mais bon. Et alors, l'autre chose intéressante, c'est donc il y a l'acteur principal aussi qui a fait cinéma. a une carrière assez classique, lui. Mais celui qui est intéressant, c'est celui qui joue l'ami avocat. Et qui, en fait, a commencé avant d'être acteur. Il était marin dans la Marine nationale. Et il a vécu pendant 4 ans près de Mourmansk, donc dans cette région du Nord. Donc voilà.
Une base importante.
Et alors, lui, j'ai regardé un petit peu sa filmographie. J'ai vu qu'il était plutôt tourné sur des films d'action et puis des films de science-fiction.
Oui.
Et il y aurait une grosse production russe de science-fiction.
Oui, aussi. Mais il a tourné aussi dans un film absolument merveilleux dont j'ai oublié le titre, qui était la rencontre entre, qui s'appelait en français, on dit le cosmos comme pressentiment. Et c'était la rencontre entre Gagarine, c'était une rencontre rêvée entre Gagarine et un jeune travailleur en apparence un peu simple comme ça. C'est un des plus beaux films russes que j'ai vu ces dernières années, qui est pas très ancien, et donc il a eu beaucoup de prix en Russie. Donc c'est un acteur qui, d'ailleurs, ils sont tous multiprimés, surprimés, etc. Et puis il y a la jeune femme aussi qui elle a joué déjà là dans un film de Zvyagintsev, dans Elena, que moi je trouve le plus beau film de ce réalisateur, et qui jouait la fille de Elena justement.
Et moi, je me posais la question aussi sur le nom même de Léviathan. Est-ce que là-dessus, on peut avoir quelques explications? Est-ce qu'il y a une volonté délibérée à travers le Léviathan d'exprimer certaines choses
Oui, c'est ce qu'on a dit. Alors bon, il y a deux aspects dans le film. Il y a l'État et l'Église. Et donc, bon, normalement, les deux sont censés combattre le Léviathan, mais ils deviennent des partenaires, voilà. Et donc, c'est là, évidemment, l'explication, je pense qu'elle est absolument directe. Et c'est quand Zvyagintsev, on lui a posé la question, donc il se réfère...
Là, c'est Hobbes, hein.
Oui, c'est
puisque c'est les trois
voilà.
temps, les trois
voilà.
pouvoirs.
Voilà, bien donc c'est ça, oui.
Bien. Le Léviathan est à l'affiche de l'Altitude de Montargis. Et mardi soir, 20h30, c'est vous, Sylvie Brébant, qui présentez le film et qui allez animer la soirée.
Voilà, et bon, c'est vraiment...
En russe, en plus. Hein.
voilà, je vais le faire en russe. Non, mais c'est vraiment un beau film. Je pense que c'est un réalisateur très original en Russie aujourd'hui. Et bon, il y a quelque chose qui est très agréable aussi par rapport à d'autres films russes. C'est il y a du calme dans son film. Pas de l'ennui, mais du calme. Et ça, c'est assez rare.
Alors moi je pense aussi, je suis bien d'accord, Sylvie, il y a du calme, et je pense que la nature a un rôle prépondérant dans ce film. Il y a des clairs-obscurs assez fabuleux. Bon, on est au cercle polaire, donc il y a des variations du jour de nuit, et je trouve qu'il a choisi des plans assez jolis, assez profonds. Lorsqu'il n'est pas sur ses sujets, il est dans la nature, et je trouve que les plans sur la mer sont quand même assez remarquables.
Oui, mais bon, c'est une région qui est magnifique.
Alors, la particularité, je lisais encore quelque chose, c'est qu'en fait, il y a très peu de séquences qui ont été tournées en bord de mer, les quelques séquences, mais tout le reste est tourné à l'intérieur des terres. Alors on fait croire qu'on est au bord de la mer, et en fait c'est tourné à peu près à 200 km de là, en plein milieu. Il a pris deux,
trois
villes.
200 km en Russie, c'est tout près.
C'est
hein.
C'était plus au bord de la mer.
Parce qu'on a un territoire qui peut faire 8000 ou 9000 km de long. Donc
voilà, ce qui fait qu'il voulait des plans avec des montagnes derrière, donc il a été en un côté, prendre de l'autre.
Il faut dire que si celles et ceux qui nous écoutent un jour veulent traverser la Russie, ils prennent le Transsibérien, ils vont s'apercevoir justement de la différence. Bon, il y a la partie occidentale et la partie orientale, et ils vont s'apercevoir, pas seulement qu'à travers les fuseaux horaires, mais ils vont s'apercevoir la diversité de ce pays qui est, à juste titre, ce que vous disiez, Sylvie, est un pays continent, hein, quand on traverse, hein, tout ça.
Oui, non, non. Et puis, bon, il faut surtout essayer de le regarder autrement. Il y a une tradition en France. Hein. On le regarde pas pareil, ce pays, quand on est en Russie, en Allemagne ou en Angleterre, par exemple. Ce qu'on écrit, moi, je lis souvent ce qui s'écrit, ça n'est pas pareil que ce qu'on est... Nous, on a quand même une attitude très très hostile, et ça remonte loin. Hein. Ça remonte à Voltaire, hein, pour tout dire. donc voilà. Donc je pense que c'est bien effectivement de voir ce film qui est très critique, mais comme peuvent l'être les films de Clint Eastwood d'une certaine manière, très critique sur certains aspects de l'État et des États-Unis. Mais bon, il faut aussi, c'est bien aussi de s'intéresser à la Russie réelle.
Alors, dans le même temps, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un retour un peu sur les choses, à savoir que, contrairement à ce qu'on pouvait pouvait croire, ce pays a toujours été prolixe en termes de production culturelle, tant à travers ses écrivains que ses artistes, que ses cinéastes et autres. Et aujourd'hui, quand même, on redécouvre, ou on découvre pour certains, ce pays-continent, la Russie, à travers ses auteurs. Aujourd'hui, on peut aller dans toute une série de bibliothèques où il y a énormément, aujourd'hui, de paquets, de livres.
Oui, il y a de très grands auteurs aussi aujourd'hui. Pour reprendre aussi un des paradoxes de Poutine, on parlait tout à l'heure du film La 9e Compagnie, l'un de ses écrivains préférés s'appelle Boris Akounine. Alors c'est un pseudonyme, parce que c'est quand vous l'écrivez, c'est Bakounine en fait. Donc c'est Bakounine. Donc c'est un pseudonyme, c'est un auteur de polar entre guillemets, c'est un excellent écrivain, c'est un des plus farouches opposants à Poutine. Donc bon, voilà, c'est tout n'est pas aussi figé que.
Parce que quand même ici, on a tendance à penser. Alors, je ne sais pas si c'est toujours bon. Il faut aller voir sur place ou se renseigner auprès de ceux qui ont l'habitude d'y aller. Quand même, qu'on a le sentiment que tout ce qui est en dehors de Poutine ou plus ou moins contestataire vis-à-vis de Poutine, en général, est assez bon. On est journaliste, par exemple, on sait que. Dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué.
Oui, c'est compliqué, mais en même temps, il y a une presse d'opposition, toujours. Il y a une presse indépendante, qui, surtout le presse-papier. Bon, il y a aussi quelques sites. Il y a une télévision qui est sur Internet, qui s'appelle Télécanal Dojd, qui est aussi assez virulente contre le pouvoir. Bon, je dirais qu'en ce moment, la crise ukrainienne, elle a laminé l'opposition, parce que l'opposition est pratiquement toute derrière Poutine, c'est merci l'Europe, merci tout le monde. Là, on lui a rendu un service extraordinaire. Les Limonov, les Navalny, etc., ils sont encore plus farouchement nationalistes.
Il y a un renforcement du nationalisme quand même, depuis cette crise.
Oui, enfin, il est aussi du côté ukrainien, le nationalisme. Oui, il n'est pas que d'un seul côté,
en l'occurrence. En tout cas, pour ce qui concerne Poutine, c'est sûr que là, il a trouvé à travers ce conflit-là, forcément, assez important quand même.
Et je voulais dire, à travers Léviathan, qui est classé film drame, il y a quand même des scènes d'humour.
Ah
il y a quand même quelques scènes d'humour, des scènes familiales autour des bouteilles de vodka ou qu'on va boire ou qu'on va tirer à la Kalachnikov dessus. Enfin, il y a des situations tout à fait cocasses et qui arrivent comme ça. Et
cocasse.
Ah oui, cocasse.
Mais c'était déjà le cas dans les précédents films de Zvyagintsev.
Et alors, il a un ton aussi. Quand même, il va développer doucement son film, puis d'un seul coup, selon l'intrigue, ça va s'accélérer très vite, puis ça devient un rythme plus lent.
Ouais.
C'est assez curieux.
Cela dit, là, la vodka est utilisée sous le terme de l'humour. On considère quand même, à juste titre, que c'est assez dramatique quand même.
Non, mais il y a des séquences où...
de vodka.
Ouais.
Aujourd'hui, dans la population russe...
Ça fait beaucoup de dégâts.
Oui, ça fait des dégâts. Hein. Oui, ça fait.
D'autant qu'on utilise beaucoup, beaucoup achètent l'alcool frelaté.
Exactement, c'est une des raisons aussi pour laquelle ça fait tellement de dégâts et bon.
Mais ce qui est curieux, c'est que
la moyenne de vie, et en particulier dans cette région du Nord, pour les hommes, c'est 58 ans.
Voilà.
Donc c'est voilà.
À cause de l'hygiène de vie.
Oui, bon, alors il y a les conditions de vie, mais l'alcool y est aussi, n'y est pas pour rien.
Mais par exemple, il y a des séquences où ils vont faire la fête, ils partent faire la fête et ils disent et on va boire.
Ouais.
Comme si c'était en soi quelque chose de.
Bon, ça fait partie de la culture russe, quand même, le fait d'aller prendre un verre.
Cela dit, ici, quand on va faire la fête en France,
on prend
quelques verres aussi.
Enfin, c'est vrai, non, bien sûr, c'est vrai, mais j'ai vu quand même qu'une bouteille de vodka, c'était 4 verres.
Oui.
Donc c'est quand même. Pas beaucoup.
Bon, le problème, c'est que justement, avec certains autres pays, ils ont un record quand même un peu mondial au niveau de, je ne sais plus combien c'était de litres de vodka par personne en Russie, mais c'est assez impressionnant quand même.
C'est un bon producteur, voilà.
Ouais.
Bien. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup, Sylvie Brémand, d'être venue.
Non, merci. J'aime toujours parler de la Russie, donc.
Bien sûr. Merci. Donc, on sait que ce film est à l'Alticiné cette semaine, donc c'est la programmation des Cramés de la Bobine. La prochaine séance, c'est demain, dimanche, à 18h. Lundi, c'est en début d'après-midi, 13h30. Et puis donc mardi à 20h30 à l'Alticiné, vous animez, vous présentez ce film Léviathan. Je dois dire que les séances du mardi sont de plus en plus remplies et on pourrait conseiller aux spectateurs de venir un peu plus tôt pour réserver la place parce qu'il y a quelquefois des gens qui restent un peu dehors et c'est dommage.
Bon, j'espère qu'on n'achète pas les billets en roubles parce que vous avez vu que ça a pris 10% en moins le rouble cette semaine et notamment hier, mais bon.
Non, nous, c'est simplement... D'ailleurs, les tarifs sont préférentiels pour les abonnés, les cramés. Hein. Donc, il y a des tarifs spéciaux, voilà.
Donc, si on parle russe, c'est... Non, je plaisantais.
Ça peut essayer, mais je ne sais pas si on va comprendre.
Bon, en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de, justement de prolonger le propos qu'on a eu, bien sûr, très... rapide avec Sylvie, d'en savoir justement un peu plus, puisque bon, j'ai cru comprendre que votre invitée du jour connaissait un peu ce pays continent.
Il me semble, hein, il me semble qu'elle le connaît bien, elle pratique la langue en plus. Et, quand même... et Sylvie, une question que je voulais vous poser aussi encore avant ça, c'est de... Est-ce que vous avez perçu la traduction conforme à ce que l'image donnait et le scénar du vraiment?
Oui, alors bah, c'est un peu difficile parce que quand on parle la langue, des fois on est sur, on écoute et puis on regarde pas les sous-titres, puis des fois quand même, parce que moi je dois dire quand même que je ne pratique pas absolument parfaitement les jurons russes, donc je suis obligée de regarder. Oui, il m'a semblé que c'était quand même que c'était pas mal du tout. Voilà. Ouais. Mais en général, si je me souviens bien, j'ai pas regardé là, mais c'est souvent Joël Chaperon qui traduit les films russes et c'est un formidable adaptateur
assez fidèle de l'origine
du cinéma russe. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Bien, merci bien Sylvie. Donc on fait un track musical.
Allons-y, je crois qu'on va...
Là, oh bah, là on a eu bien froid. Hein, tout à l'heure. On va partir au Sénégal, on va s'éclater au Sénégal avec le Martin Circus.
We'll be right back.
Voilà, après le froid de Mourmansk et de la Russie, on s'est retrouvé sous des latitudes où c'était un peu plus chaud.
Ouais, c'était un projet.
Là, vous avez retiré votre pull, vous pouvez le remettre, hein, parce que là, on est en France, il fait un peu froid quand même, même si il y a un peu de soleil.
Donc, c'est notre film Léviathan de Andrei Dziagounstev, film russe, donc à l'Altitude de Montargis. Et puis, je voudrais parler tout de suite de la rétrospective que nous organisons le 29 et 30 novembre prochain.
Attention.
C'est sur Martin Scorsese. Il y a 7 films à l'altitude.
On a pris de risque, hein.
Pas pris de risque. Non, 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 bien sûr. Enfin, on a pris quelqu'un de référent quand même. C'est quelqu'un du cinéma, connu et archi connu. Et donc, on aura l'occasion pendant ces deux jours de projeter 7 films. Ça commencera le samedi en début d'après-midi. On fera un film le dimanche matin. Et puis, dans la journée, donc il y aura des films jusqu'à le dernier qui sera le Gang of New York. À 21h avec DiCaprio.
DiCaprio.
Voilà. Mm-hmm. Cette rétrospective sera animée par Thomas Sotinel, journaliste critique au Monde, critique de cinéma, qui est déjà venu pour les cramer présenter de films. Je voudrais dire que c'est toujours pour nous un grand moment de festif, accueillir nos abonnés et les gens qui aiment le cinéma.
Faites-en, il va commencer à faire froid, là, ici.
Alors, il y aura des buffets qui seront offerts à nos spectateurs, peut-être même quelquefois le champagne. C'est pas seulement pour les faire venir.
C'est un petit festival de Cannes, mais.
À la mode des cramés.
Petit festival des cramés, voilà.
Des cramés et de l'altissiné, parce que bien sûr. C'est. Martin Nicolas, directeur de l'altissiné, nous apporte une aide très précieuse pour ces rétrospectives. Donc, on se donne rendez-vous cette fin novembre, 29 et 30 novembre, pour la rétrospective Martin Scorsese. Et puis, la semaine prochaine, je vous parlerai encore d'un autre film, le film du patrimoine, les films cultes, le documentaire du mois, plein de choses encore à se dire. Je vous souhaite un beau week-end. Il y a du soleil. Alors, on est heureux en ce mois de novembre. On est toujours fidèles à ces deux ailes. Et puis, vive le cinéma.